précédemment dans les disparus de Crystal Lake.
C'est quand même bizarre, non? Tout le temps où il a vécu dans le coin, il y avait des filles qui disparaissaient et ensuite il déménage et d'un coup ça s'arrête.
Je veux dire, nous au moins, on l'a retrouvé. On est chanceux quelque part. Et au fond, même le coupable, on sait très bien qui c'est.
Aujourd'hui, c'est très différent parce que maintenant, avec tous les gadgets électroniques, on peut trouver des preuves beaucoup plus facilement. On peut tracer les personnes pratiquement en temps réel. C'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un maintenant. La plupart du temps, on met quelques jours, pas plus.
La seule fois, c'est un soir où on s'est disputé, où il était très en colère, il m'a dit « Fais gaffe à toi ou tu vas finir comme ta sœur. »
Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Plus j'en apprends sur la famille LaRosa, plus je ressens le besoin d'enquêter à nouveau sur les autres disparus, pour voir si je peux établir des liens entre toutes ces affaires. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent. En 1973, les habitants étaient sur le qui-vive dans les petites villes du Connecticut, d'Ellington, de Tolland et de Vernon. C'était après la disparition de Janice Pocket, 7 ans, qui était partie à vélo dans les bois près de chez elle pour chercher un papillon. Tout le monde avait été choqué par cette affaire. Surtout qu'à peine 5 ans plus tôt, Debbie Spickler, alors âgée de 13 ans, avait elle aussi disparu dans le même coin. Tout comme Lisa White, 13 ans également, évaporée sans laisser de traces. Et tous ces enlèvements ont eu lieu pratiquement au même endroit. Pour les habitants et les journalistes, il a toujours été clair qu'il y avait un lien entre toutes ces affaires. D'ailleurs, sur les avis de recherche qu'on trouvait un peu partout en ville et que les gens distribuent encore aujourd'hui, il y avait leurs 3 visages côte à côte. 3 jeunes filles qui ont toutes disparu sans laisser de traces. Et pourtant, quand on enquête en profondeur, on réalise qu'en fait, il n'y a pas tant de points communs que ça entre l'histoire de Debbie et les deux autres. Ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on croit savoir, c'est que pendant l'été 1968, Debbie Spickler était à Vernon chez son oncle et sa tante pour passer des vacances avec ses cousins. Elle était originaire de Mystic, une petite ville du Connecticut, qui se trouve au sud de la région qui nous intéresse, à 1h30 de voiture à peu près. Le jour du drame, Debbie portait un débardeur blanc, un short à pois et des baskets blanches. Elle se rendait au parc avec sa cousine pour profiter de la piscine qui y était installée pendant l'été. Elle est restée seule un instant, et plus personne ne l'a jamais revue. La cousine, qui avait 17 ans à l'époque, avait oublié sa serviette. Elle est retournée à la maison pour la récupérer, et elle a laissé Debbie partir devant, en lui promettant de la retrouver au parc. Du moins, c'est comme ça que tout le monde croit que ça s'est passé. Il se trouve qu'en fait, cette histoire est complètement fausse. L'année dernière, j'ai discuté avec un proche de Debbie Spickler, et je lui ai dévoilé certaines informations que j'ai découvertes en enquêtant de mon côté. Des choses dont je crois qu'il n'avait jamais entendu parler. Ensuite, je lui ai donné le nom de quelques-uns des suspects. Et je lui ai demandé de poser des questions autour de lui pour voir s'il pouvait en apprendre plus. Mais quand je l'ai recontacté pour prendre des nouvelles, il m'a répondu « Ma famille ne veut plus que je vous parle ». Cette personne a refusé que son témoignage apparaisse dans le podcast. Les informations que j'ai partagées avec lui, tout le monde n'y a pas accès. Elles viennent directement de mes sources au sein de la police et des dossiers du détective privé avec qui je travaille, Ken Robbie. Salut Ken, tu vas bien? T'as vu ce que je viens de t'envoyer?
Oui, j'ai vu, c'est intéressant tout ça.
Ken, c'est un vrai pro. Il a travaillé pendant 23 ans au NYPD, la police de New York. Il a plus de 360 arrestations à son actif et il a fait condamner pas moins de 330 criminels. Après les attentats du 11 septembre, Ken s'est retrouvé affecté au service de médecine légale. Son rôle, c'est surtout d'aider à identifier les victimes. C'est un expert des affaires de disparition, et lui et moi, on bosse ensemble depuis des années. Dès que je dois m'occuper de dossiers comme celui-là, c'est à lui que je fais appel. Donc, quand ce proche de Debbie Spickler a arrêté de me parler, c'est Ken que j'ai appelé en premier, pour qu'il m'aide à y voir un peu plus clair dans les archives de la police que j'ai en ma possession. Ensemble, on a réussi à démêler le vrai du faux et à reconstituer toute l'histoire. Voilà ce qui s'est réellement passé. Le 24 juillet 1968, vers 15h30, Debbie Spickler et sa cousine sont partis de chez l'oncle et la tante de Debbie pour se rendre chez une amie à elle, qui habitait à un bon kilomètre de là, en direction de l'ouest. Quand elles sont arrivées, elles ont frappé à la porte, mais il n'y avait personne. Elles ont alors décidé de se séparer pour chercher leur amie, du moins, c'est ce que la cousine a raconté ensuite à la police. Pendant que Debbie allait voir au parc, qui était à 100 mètres de là, elle, Elle s'est dirigée vers l'Igloo, un restaurant où tous les jeunes du coin allaient traîner. Irène et Suzanne Larossa y étaient tout le temps, tout comme Lisa White. Sa cousine est la dernière personne à avoir vu Debbie Spickler. La police n'avait qu'une seule piste pour retrouver la gamine. La cousine de Debbie a rapporté aux forces de l'ordre que la veille de sa disparition, Debbie était à l'Igloo avec un adolescent du coin, un certain Ed Olgerson Jr., qui avait 16 ans à l'époque. Il y avait aussi un ami du garçon en question, un autre ado, qui se faisait surnommer Buzzy. La police a pu retrouver Buzzy, mais pour ce qui est d'Ed Olgerson, il a apparemment disparu le même jour que Debbie Spickler. D'après le rapport, la dernière fois qu'il a été vu, lui aussi était du côté de Henry Park. C'est curieux, non? Cet autre ado qui disparaît le même jour, à la même heure, mais aussi au même endroit. J'ai demandé à Ken de me dire ce qu'il en pensait.
Il y a deux possibilités. Soit c'est lui le coupable, soit il y a deux victimes. Ou alors, c'est qu'ils se sont enfuis ensemble, tous les deux. Il faut qu'on creuse cette histoire, c'est prometteur. On sait s'ils étaient en couple.
Dans cette affaire Debbie Spickler, il y a un truc qui m'a toujours dérangé. Dans le coin, tout le monde est sûr qu'il y a un lien avec les autres disparitions. Pourtant, à bien y regarder, c'est pas exactement la même histoire. Pour les autres disparitions, au fil des années, j'ai trouvé des indices qui montrent que tout serait lié au meurtre de Suzanne Larossa. Mais là, avec Debbie, il y a cette histoire avec Ed Olgerson. C'est une piste solide. Et ça me laisse penser que tout ça n'a peut-être rien à voir avec les autres affaires. Au début du mois d'août 1968, donc peu de temps après que Debbie ait disparu, une voisine a signalé à la police qu'elle avait vu le même véhicule passer plusieurs fois devant chez elle. Elle n'a pas pu relever la plaque d'immatriculation parce que la voiture allait trop vite et elle n'est pas sûre à 100% de ce qu'elle a vu, mais elle croit bien avoir aperçu une jeune fille à bord.
Tiens, dans ce que tu m'as envoyé, il y a un rapport du commissariat de Vernon. Apparemment, ils ont parlé à la mère de Olgerson et elle leur a dit « Pour ce que j'en sais, il s'est enfui de la maison et il est parti à Cape Cod. »
J'ai appris ensuite que la police avait retrouvé Ed à Boston, 3 semaines après sa disparition et celle de Debbie. Ça paraît logique, puisque Cape Cod est juste à côté de Boston. Apparemment, Ed était parti précipitamment parce qu'il fuyait la police. D'après le rapport des flics qui l'ont arrêté, il aurait dit « J'ai mis une fille enceinte et maintenant il y a la police qui me cherche. »
Et attends, c'est pas tout. En septembre de la même année, tu as la police de Vernon qui l'arrête parce qu'il est accusé de faire du chantage. C'est même pas 3 mois après qu'il ait disparu avec Spickler. Tu penses pas qu'il faisait chanter les parents de la gamine? Il avait 17 ans à l'époque. Qui tu veux qu'il fasse chanter?
Peut-être qu'il a juste sauté sur l'occasion. Imagine, il apprend que Debbie a disparu aussi, et il se dit, c'est ma chance de me faire un peu d'argent.
C'est ce que je me disais aussi. Je pense que c'est un opportuniste. Quand je lis son dossier, on dirait que c'est son genre de faire un truc comme ça. Il a sauté sur l'occasion, comme t'as dit. Il est allé voir les parents et il leur a dit « Je sais quelque chose, donnez-moi de l'argent. »
Est-ce que Debbie s'est enfuie avec Ed ou est-ce qu'elle a été enlevée? Si je me base sur les informations que j'ai pu récolter, je penche plutôt pour la première solution. Debbie était venue à Vernon quelques mois plus tôt et c'est là qu'elle avait rencontré Ed. Au moment où ils se sont revus cet été-là, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà devenus très proches. En cherchant des informations, Ken est tombé sur 2 rapports de la police fédérale datés de mai 1970, donc presque 2 ans après que Ed et Debbie ont disparu. Ces rapports décrivent l'arrestation d'un individu qui correspond à la description de Ed Olgerson.
Quand ça remonte à longtemps comme ça, c'est beaucoup plus dur de retrouver les gens. Mais là, dans les rapports, le type qui s'est fait arrêter, il a les mêmes initiales que notre Ed Olgerson. C'est ce qui est écrit sur ce papier, en tout cas. Dans les années 60-70, ils faisaient tout sur papier, donc pas moyen de passer par Internet pour envoyer les dossiers aux 4 coins du pays.
Dans l'un des rapports, un individu du nom de Ed Olgerson a été appréhendé dans le Wyoming. Il était au volant d'une voiture volée dans le Maine quelques mois plus tôt. Apparemment, il était accompagné d'une femme et d'un enfant. Quand on lui a demandé ses papiers, on s'est rendu compte qu'il était en possession d'un faux permis et de plusieurs cartes de crédit volées. Donc, ils ont retrouvé un Ed Holgerson à Laramie, dans le Wyoming. Mais comment on sait que c'est bien le nôtre ?
En fait, ce que je me dis, vu qu'ils ont les mêmes initiales et tout, c'est que ça doit être le père de Ed.
Wow. Ah, d'accord, je vois. Alors que nous, celui qui nous intéresse, c'est Ed Holgerson Jr., c'est ça ?
Exactement.
Les papiers sur lesquels Ken a mis la main disent que le Ed Holgerson qui a été arrêté dans le Wyoming avait environ 40 ans à l'époque des faits. Il s'agit donc probablement du père de Ed Jr. D'autant plus que l'individu a aussi donné une adresse à Hartford, dans le Connecticut, et que c'est là que vit la mère de Ed. La femme qui était avec lui dans la voiture avait environ 36 ans. On est donc sûr qu'il ne peut pas s'agir de Debbie. Mais alors, il était à qui ce môme ?
Donc la police l'envoie en prison. Et il dépose la femme et l'enfant à l'armée du salut. Et après ce jour-là, il n'y a plus aucune trace de cette femme. Plus personne d'enregistré sous ce nom-là nulle part. Et il n'y a rien qui y relie cette gamine, ni à lui, ni à elle, ni à personne d'autre. Et au moment où tout ça se passe, Debbie a disparu depuis des mois et personne n'a de nouvelles d'elle non plus. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il y a une chance. Parce que, tu te souviens, Holgerson avait raconté qu'il s'était enfui parce qu'il avait mis une fille enceinte. Donc je me dis, il y a de bonnes chances pour que son père soit descendu à Cape Cod et qu'il ait récupéré le bébé, puis qu'il soit parti avec sa copine ou sa femme. Et ensuite, ils sont partis dans une traversée du pays pour aller jusqu'en Arizona, parce qu'il essayait de déménager là-bas.
Mais à partir de là, le bébé disparaît, c'est ça ? Donc, orphelin. Ensuite, il s'est retrouvé dans le système des foyers. Ben là, ça va être compliqué de retrouver sa trace.
Ouais, je me disais la même chose.
Ce bébé, s'il est encore en vie aujourd'hui, n'a sûrement pas la moindre idée de qui sont ses parents. J'ai voulu interroger la cousine de Debbie, celle qui était avec elle le jour où elle a disparu. Mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas parler de cette affaire, ni à moi, ni à personne. Pourtant, quand la police de Vernon l'a interrogée en 2010, elle a révélé des choses très intéressantes. Elle a notamment dit que Debbie avait une dent de devant cassée et qu'elle était, je cite, « déjà plutôt bien faite pour une fille de cet âge ». Mais à part ça, elle s'est tenue à la version de l'histoire qu'elle avait racontée en 1968 et elle n'a rien révélé de nouveau. Elle a quand même confessé que Debbie lui avait dit avoir l'impression d'être un fardeau pour sa famille. Ce sont ses mots exacts. J'ai toujours trouvé bizarre que personne de la famille Spickler n'ait jamais voulu parler publiquement de Debbie. Même sur la photo qu'ils ont donnée à la police, la gamine a l'air d'avoir 10 ou 11 ans, alors qu'elle en avait 13 quand elle a disparu. Maintenant que Ken m'a un peu éclairé sur tout ce qui s'est passé avec Ed Holgerson, ce qu'il faut que j'arrive à comprendre, c'est d'où sort cette histoire de serviette de bain oubliée, et pourquoi tout le monde pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
Maintenant qu'on a dit tout ça, ça nous avance quand même pas à grand-chose. En revoyant tous les éléments du dossier, ce que je me demande, c'est... Bon sang, mais où est passée Debbie Spickler ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'elle est encore en vie ? Si tu veux mon avis, c'est pas impossible qu'elle soit encore parmi nous et qu'elle ait refait sa vie quelque part.
Même si les faits se sont produits à quelques années d'intervalle, dans l'esprit de tous les habitants de la région, l'affaire Debbie Spickler est liée aux disparitions de Lisa White et de Janice Pocket. Mais je suis à peu près sûr que c'est faux, et que ce qui est arrivé à Debbie n'a rien à voir avec les autres affaires. C'est pour ça que, pour le moment, je vais me concentrer sur les autres dossiers. D'autant plus que j'ai récemment mis la main sur un rapport de police qui résume toutes les procédures en lien avec la disparition de Lisa White. Lisa White, souvenez-vous, c'est l'adolescente de 13 ans qui a disparu en 1974, alors qu'elle rentrait de chez son amie Myers Grove en stop. Ou du moins, on pense qu'elle faisait du stop. À l'époque, cette Maria habitait à deux pas de l'appartement de Bob et Suzanne LaRossa, à Vernon, sur la commune de Rockville. Je voudrais maintenant vous présenter Don Skews, un ancien officier de police qui a passé toute sa carrière à Vernon. C'est lui qui a pris en charge l'enquête sur la disparition de Lisa, et à mon avis, c'est lui qui a été le plus proche de faire toute la lumière sur cette affaire.
Au début, personne ne prenait cette histoire au sérieux. Les collègues, ils pensaient tous que c'était juste une fugue.
Don avait 25 ans quand il a rejoint le commissariat de police de Vernon. C'était en 88, soit 14 ans après la disparition de Lisa White. À Vernon, comme dans la plupart des gros départements de police, les agents travaillent surtout sur des affaires récentes. mais chaque officier se voit aussi confier la responsabilité d'une affaire plus ancienne qui n'a jamais été élucidée. Très vite après avoir rejoint la CRIM, Don s'est donc retrouvé en charge du dossier Lisa White.
Une pratique courante à l'époque, c'était que quand on recevait un témoignage, on allait vérifier. Mais si ça donnait rien, on n'en gardait aucune trace. Personne ne laissait jamais de notes. Donc quand j'ai repris le dossier des années plus tard, il n'y avait pas moyen de savoir vraiment qui avait déjà été interrogé et qui n'avait pas encore parlé.
On se souvient que Lisa White était pressée de rentrer chez elle le soir où elle a disparu parce qu'elle n'avait pas le droit d'être dehors. Elle avait fait le mur pour aller voir son amie Maria, mais elle était censée être chez elle, dans sa chambre. Elle était punie à cause d'une virée en voiture qui avait mal tourné. Au début, les rapports de police disaient qu'elle était avec deux jeunes hommes ce soir-là, mais en fait, il y avait Lisa, Maria, et non pas deux, mais quatre garçons, qui avaient tous quelques années de plus que les deux adolescentes. C'était le soir d'Halloween, et toute cette petite bande avait fini au poste après avoir été arrêtée par la police parce qu'ils balançaient des citrouilles par la fenêtre de la voiture. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres maintenant? Des détails que les enquêteurs de l'époque n'auraient pas vus?
Il y a une question que personne ne s'était posée au moment où elle a disparu, et c'est celle-là. Est-ce que tout ça va plus loin que Lisa White? Est-ce qu'il y a un détraqué qui rôde dans la région et qui kidnappe des gamines? Il y avait déjà eu Janice Pocket, et puis Debbie Spickler quelques années avant ça, et tout ça s'est passé au même endroit, c'est-à-dire à Vernon. On s'est mis à essayer de trouver des rapprochements, on cherchait tout ce qui aurait pu faire le lien entre les disparitions. J'ai commencé à travailler avec la police de l'État du Connecticut. On s'est changé nos notes, on cherchait si on n'avait pas raté quelque chose, ou si eux n'étaient pas passés à côté d'un truc.
Vous avez trouvé quelque chose?
Non, rien de très probant. Ils avaient quelques noms, mais c'était des suspects sur lesquels on avait déjà enquêté. On a revérifié, on a refait des interrogatoires, mais rien. Et en plus de ça, comme le temps avait passé, il y avait des suspects qui étaient déjà morts.
C'est une affaire qui traîne depuis plus de 40 ans, donc vous imaginez bien que des témoignages, le commissariat de Vernon en a reçu des centaines et des centaines. Il y en a d'ailleurs que j'ai étudié personnellement. La plupart de ces témoignages se sont avérés être de fausses pistes. Mais il y en a quelques-uns dont je me rappelle encore aujourd'hui. Par exemple, quelques jours à peine après que l'enquête a été lancée, il y a un voisin des amis avec qui Lisa était sortie la veille du drame qui est allé parler à la police. Il dit avoir entendu une fille crier et taper dans les murs chez ses voisins de Lisa une heure avant que la police arrive et commence à chercher la jeune fille. Quand on les a interrogés, les amis de Lisa ont affirmé qu'ils ne savaient pas où elle était passée ni ce qui lui était arrivé. Il y a un autre témoignage que j'ai lu dans lequel il est question d'un camionneur qui traversait Rockville cette nuit-là avec son fils. Celui-ci affirme qu'ils ont bien pris en stop une jeune fille qui attendait, le pouce en l'air, au bord de la route, que quelqu'un s'arrête pour l'aider à rentrer chez elle. Le camionneur a déclaré avoir fait monter la jeune fille au niveau du 7-Eleven, et la description qu'il donne correspond bien à Lisa White. Apparemment, il aurait déposé l'adolescente à la sortie de la ville, à l'endroit où Vernon touche la ville de Manchester, qui est juste à côté. Puis il aurait continué son chemin. À ma connaissance, la police n'a jamais suivi cette piste, ni essayé de retrouver ce camionneur ou son fils. En lisant une vieille déposition de Madame White, sa mère, j'ai aussi appris que Lisa avait un petit ami qui avait quelques années de plus qu'elle et qui, justement, vivait à Manchester.
Elle est montée en voiture avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais bien sûr, elle avait tort de lui faire confiance. Par contre, à l'époque, on n'a retrouvé aucune trace de violence nulle part. Ni à l'endroit où elle était censée avoir disparu, ni dans les environs.
Pendant un moment, la police s'est demandé si Lisa n'était pas partie vivre à Schnipsit Lake, à peu près à 1,5 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Une femme affirmait l'avoir vue s'enfuir dans la rue, en criant « Il va me tuer, au secours !» C'était vers le milieu du mois de novembre 1974, quelques semaines après que Lisa a disparu. Quand cette femme a entendu crier dans la rue, elle est allée regarder par la fenêtre, et là, elle a vu une jeune fille qui ressemblait à Lisa White en train de courir, poursuivie par une camionnette. En tout cas, il y a un témoignage qui me paraît complètement fiable. C'est celui d'un ami de Lisa qu'il a aperçu le soir de sa disparition. Si on en croit ce qu'il dit, elle sortait de chez Maria's Grow et elle marchait en direction de l'est, vers le centre-ville. Donc dans la direction opposée à celle qu'avait indiquée Maria. Toujours d'après les déclarations de cet ami, Lisa était encore perturbée par ce qui s'était passé la veille au soir et elle était en larmes. J'ai demandé à Don si ces témoignages-là leur avaient permis, à lui et à ses collègues, de se faire une meilleure idée de ce qui était arrivé à Lisa.
Ma théorie, c'est qu'elle est montée en voiture avec quelqu'un qu'elle connaissait. Soit un ami proche, ou bien une amie, ou même juste une connaissance avec qui elle se sentait en sécurité. Mais je n'en sais pas plus.
un ami ou bien une amie. Vous voyez, c'est exactement pour ce genre de raison qu'il est vital pour moi de travailler avec la police, et surtout avec des policiers qui enquêtent sur l'affaire depuis des années. Je n'aurais jamais pensé à une femme. Parce que quand il y a des enlèvements, et surtout quand la victime est une fille, on a toujours tendance à se dire que c'est un homme qui a fait le coup. Mais parfois, les kidnappeurs utilisent des femmes pour mettre leurs victimes en confiance. Ça pourrait coller au scénario proposé par Don.
À l'époque, il n'y avait pas trop de risque de faire du stop. Tous les jeunes le faisaient.
Il y a aussi le fait que Bob LaRosa habitait juste à côté. Ça, c'est une piste que vous avez étudiée ou alors pas du tout?
On y a pensé, je crois, mais on n'a pas trop creusé de ce côté-là. On n'a pas trop fait le lien avec l'histoire de Suzanne LaRosa, parce qu'on pensait que c'était une affaire à part qui n'avait rien à voir.
Dans le cas du meurtre de Suzanne LaRosa, la police de Vernon a toujours considéré son mari Bob comme le suspect numéro un. Mais ils ont aussi envisagé la possibilité qu'il puisse avoir joué un rôle dans d'autres affaires. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Irène LaRosa, une autre disparue? Ça vous dit quelque chose?
Non, jamais entendu parler.
J'ai raconté à Don tout ce que je savais sur Irène et sa disparition. Comme il travaillait sur les autres affaires, je pensais qu'il serait au courant.
Oui, j'aurais pu faire le rapprochement rien qu'à cause du nom de famille déjà, LaRosa.
Irène était la sœur de Bob. Ça vous aurait mis la puce à l'oreille de savoir qu'en plus de sa femme assassinée, il y avait une sœur qui avait disparu.
Oui, c'est sûr.
C'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas? Comment ça se fait que Bob n'ait jamais mentionné sa sœur qui s'était évaporée dans la nature à peine 4 ans plus tôt? Dans la même situation, n'importe qui aurait fait le rapprochement. N'importe qui se serait dit « Tiens, peut-être que cette information pourra leur servir à retrouver non seulement ma femme, mais aussi ma sœur. »
Mais je me répète, c'est la première fois que j'en entends parler. J'ai été sur l'affaire LaRosa pendant un moment, et je pense qu'avec mes collègues, si on avait su ça, on aurait forcément essayé d'en savoir plus.
Ensuite, je me suis concentré de nouveau sur Lisa White. Et j'ai essayé de savoir ce que Don pouvait me dire de plus. Je savais, par exemple, qu'il y avait déjà eu des fouilles pour essayer de retrouver le corps de Lisa, et que la police avait même utilisé des chiens spécialement entraînés pour ça. Et c'est bien pour l'affaire de Lisa que vous avez fait des fouilles avec des chiens, non?
Tout à fait.
Et vous avez cherché où?
La dernière fois, c'était du côté de Henry Park.
Henry Park, vous avez bien entendu. L'endroit même où Debbie Spickler a été vue pour la dernière fois. Ces fouilles dont me parle Don, elles ont été faites en 2012, peu de temps avant qu'il ne prenne sa retraite.
On y est allé avec les chiens, mais ça n'a rien donné. Quelqu'un nous avait dit qu'on la retrouverait peut-être là. Et à l'époque, on prenait tous les témoignages au sérieux. Parce que tout ce qu'on voulait, c'était résoudre l'affaire.
Et du côté de là où ils ont retrouvé Suzanne LaRosa, vous savez s'il y a déjà eu des fouilles pour essayer de retrouver Lisa, ou Janice, ou d'autres filles encore? Ça vaudrait le coup d'envoyer des chiens, non?
Si ça a déjà eu lieu, je suis pas au courant.
Au point où j'en suis, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'organise des fouilles moi-même. J'ai proposé l'idée à la police d'État du Connecticut, et je sais que les Wendell l'ont fait aussi, tout comme des proches des victimes. Mais on n'a jamais eu de réponse, ni eux, ni moi. Pourtant, ça me paraît évident que la prochaine étape, c'est de fouiller cet endroit, pour voir si on y retrouve d'autres cadavres. Je n'aime pas remettre en question le travail de la police, ce n'est pas mon rôle. Mais là, il me semble que c'est la chose à faire. D'autant plus que Don, lui aussi, est convaincu que toutes ces affaires sont liées. Aujourd'hui encore, il est frustré de ne pas avoir pu en faire plus. Il se sent même un peu coupable, ça se voit sur son visage. Plus on discutait, plus j'ai senti qu'il changeait d'attitude. Je sens bien qu'il est plein de compassion pour les familles des victimes, et qu'il a envie de les aider.
Tout ce qu'il faudrait, c'est une preuve qui montre qu'il y a un rapport, quelque chose qui pourrait permettre d'élucider l'histoire de Lisa, et toutes les autres aussi. Mais il n'y a rien. Pas le moindre témoin. Celui qui a fait ça, soit c'était un type extrêmement doué pour kidnapper les gens sans laisser de traces, soit il les connaissait. Au moins pour ce qui est de Lisa, c'est sûr qu'il la connaissait. À ce qu'on m'a dit, elle avait son petit caractère, donc je pense pas qu'elle se serait laissée faire. Je pense pas qu'elle serait montée dans une voiture comme ça sans résister. Donc oui, je pense qu'elle connaissait la personne qui l'a enlevée.
En 1981, la mère de Lisa, Judy Kelly, a fait une demande pour toucher son assurance vie. Elle avait désespérément besoin de tourner la page. Et un an plus tard, en 1982, les services de police du Connecticut ont publié leurs conclusions sur l'affaire Lisa White. D'après le rapport officiel, la victime n'est plus de ce monde. Elle est morte peu de temps après avoir disparu, après avoir accepté de monter dans la voiture d'un inconnu. Elle marchait dans la direction du centre-ville de Rockville quand le drame est arrivé.
Ça a ruiné ma vie. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y repense.
Vous venez d'entendre un enregistrement de Judy Kelly, qui partage toute sa peine à l'idée de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa fille.
Il y a quelqu'un qui l'a enlevée de force et puis l'a assassinée. Elle est morte, j'en suis sûre. Tout ce que je veux, c'est savoir où elle est.
Pour nous tous qui avons grandi dans ce coin de Connecticut, Jody, c'était quelqu'un d'important. Parce qu'elle avait cette détermination sans faille et qu'elle essayait de toutes ses forces de retrouver sa fille. Mais pas seulement. Il y a tant de jeunes qui sont passés par sa salle de danse et qui la connaissaient personnellement. Un après-midi d'automne, je suis repassé par la salle de danse pour discuter avec April, la sœur de Lisa. April, c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves terribles et qui s'en est toujours sorti. Malgré le deuil, malgré l'angoisse de ne pas savoir où était passée sa sœur, elle a trouvé la force de continuer à donner des cours de danse, à élever ses enfants et à essayer de réparer les injustices que sa famille a subies. C'est une des personnes les plus fortes que je connaisse. Si je suis venu voir April aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à lui demander. Je me suis dit que ce serait bien de faire une place à Judy dans mon podcast. Je sais que ta mère écrivait un journal. Est-ce que tu voudrais bien en lire quelques extraits pour qu'on puisse un peu entendre sa voix ?
Ma mère écrit : si seulement je pouvais avoir une seconde chance, je lui dirais à quel point je l'aime. Tout le monde me dit : ne t'inquiète pas, elle va revenir. Peut-être qu'il dit ça pour me rassurer, mais ça ne marche pas du tout. On a tous besoin de temps pour faire notre deuil, pour pouvoir continuer à vivre. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé à Lisa, donc ça nous empêche de faire le deuil. On a survécu à Noël, mais les cadeaux que j'ai achetés à Lisa sont là dans le salon. Il n'y a personne pour les ouvrir. Le mois de mars vient de se terminer. Je n'arrive plus à faire confiance à la police. Les jours se suivent et se ressemblent. Tout est comme dans un brouillard. Je prie tous les jours que quelqu'un retrouve Lisa pour qu'on puisse reprendre le cours de nos vies.
En mars 2013, à Vernon, un étudiant en art a fait une découverte. Il cherchait des bouts de métal pour en faire une sculpture, et en fouillant dans les bois, il s'est retrouvé dans un endroit où Lisa et ses amis venaient souvent pour faire des feux de camp, boire des bières et traîner entre jeunes. Il regardait par terre pour essayer de trouver du métal. Mais au lieu de ça, ce qu'il a trouvé, c'est un crâne humain, le crâne d'une jeune femme. Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake.
C'était tout près de chez moi. Vraiment, je le sentais dans mes tripes. C'était forcément elle. Je crois que tout ce que je voulais, c'était être sûre de ce qui lui était arrivé. Et qu'on ne soit plus dans le doute, ma mère et moi. C'est pour ça, quand on a su la vérité, ça m'a fait comme un coup de couteau en plein cœur.
Ils lui ont posé les mêmes questions 50 fois. Et à chaque fois, tout ce qu'il avait à répondre, c'était « je me souviens plus, j'ai jamais dit ça ». Et même quand il lui montrait des rapports où ce qu'il avait dit était écrit noir sur blanc, il répondait pareil « je me rappelle pas ».
Et si je vous disais qu'une autre petite fille s'est faite enlever, à peine 30 jours plus tard, à moins de 10 km de là où habitait la petite Pocket? Vous trouveriez ça bizarre, pas vrai?
Ah oui, évidemment, mais pourquoi vous me demandez ça?
Donc vous n'êtes pas au courant, alors.
C'était le 7e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Energy et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Blanche Leleu, Sophie Fogarassi, Sylvain Sounier et Pierre-Michel Dudan.